Et bonjour, grande table spéciale Claude Lanzmann aujourd'hui dans les quatre sœurs, quatre femmes juives de Pologne, de Hongrie ou de Tchécoslovaquie racontent le cauchemar qu'elles ont vécu, victimes de la grande machinerie nazie, déportées, témoins de la mise à mort des leurs. Elles racontent aussi le droit à la vie comme une loterie, des revenantes parties vivre ensuite en Israël ou exilées aux États-Unis, décédées depuis, que le réalisateur Claude Lanzmann avait rencontré pour le tournage de Shoah. Plus de 20 ans après la sortie de cette œuvre monument, des récits qui continuent à dire ce que longtemps personne n'a voulu entendre. Et à montrer l'impossible. À 92 ans, Claude Lanzmann se souvient dans la première partie de l'émission. Puis à partir de 12h55, retour sur l'œuvre de ce cinéaste majeur, témoin du siècle et témoin dans le siècle, qui n'a cessé de faire œuvre de mémoire. Avec l'historien Pierre Nora et le réalisateur Arnaud Desplechin, ils seront tous les deux les invités de la deuxième partie de La Grande Table à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Elle s'appelle Ruth, Paula, Anna et Ada, quatre réchappés de la destruction nazie, témoins des horreurs de l'Holocauste. Quatre témoins qui forment aujourd'hui une tétralogie des films sortis tout droit de la pellicule de Shoah, film gigogne de 9h30, tourné dans les années 70, sorti en 85. À l'époque, Claude Lanzmann accumule les témoignages comme des trésors, des offrandes, dit-il, que les Grecs déposaient sur les pentes d'un sanctuaire. Le grand art de Claude Lanzmann, écrit sa compagne d'alors, Simone de Beauvoir, dans la préface du livre Shoah, est de faire parler les lieux, de les ressusciter à travers les voix et par-delà les mots d'exprimer l'indicible par des visages. Il le prouve, une fois encore, avec ses quatre sœurs diffusées en deux fois, les mardis 23 et 30 janvier sur Arte.
Voilà ma belle.
Claude Lanzmann, il paraît que la poésie a fait battre votre cœur toute votre vie. Il y a des mots qui vous viennent en tête, là, maintenant, tout de suite?
Je connais toujours des très longs poèmes.
Ah!
J'aime pas les choses courtes. 300 vers.
Oula!
C'est beaucoup, 300 vers. Il faut entretenir ça. Parce que la tendance générale est l'oubli. C'est ce que je fais la nuit. C'est pas tellement génial parce que... Si on réapprend les poèmes la nuit, on désapprend également à dormir. On ne dort plus.
Alors je ne sais pas si ce sont des poèmes qui parlent de vie, de mort, d'amour, de bonheur, ceux que vous vous récitez le plus souvent la nuit. Claude Lanzmann, à propos de « Pourquoi Israël ?», vous avez dit que l'amour joue toujours un rôle important dans votre processus créateur.
Oui.
Dans les quatre sœurs, il y avait de l'amour aussi de votre part, d'une certaine manière, pour ces quatre femmes que vous avez interrogées avec beaucoup de pudeur, avec des silences, avec énormément de respect et d'admiration. On le sent aussi à travers votre caméra. On sent votre regard sur ces femmes.
Oui, c'est vrai. Il était impossible de ne pas être pris par elles, subjugué. Et j'ai beau connaître le film par cœur, parce que je l'ai fait, et je le connais vraiment par cœur. Il m'arrive certaines fois de me réciter le film, ou de le revoir, et de chialer, je pleure. Des larmes que je suis tout à fait incapable de maîtriser, de retenir, je pleure. Et je me laisse... aller à ces larmes. Et les larmes sont un test de la beauté du récit poétique, de sa force. Donc c'est compliqué.
Dans l'Arche de Noé, premier film parmi les quatre dont on va vous faire entendre un extrait diffusé le 30 janvier sur Arte, Anna Martin, serrant un petit carnet où tout est consigné, raconte comment un convoi de 1684 juifs dont elle était a échappé à la mort au terme d'une négociation entre le président du comité de sauvetage, Rudolf Kastner, et Adolf Eichmann.
C'est la vérité, ça a été une chose unique dans l'histoire de l'Holocauste que les Allemands laissent sortir d'Allemagne. Pour aller en Suisse, un convoi de 1600 juifs. Vous souhaitez dire quelque chose encore?
Je crois que j'ai fait le bon choix de venir en Israël. Quand nous sommes descendus du bateau à Haïfa, je savais que c'était la fin du voyage. Je ne partirai plus d'ici. On ne me chasserait plus.
Pourquoi est-ce que vous avez eu des larmes aux yeux pendant presque toute l'interview?
Ce n'est qu'une maladie des yeux. Mais par moments, c'était de vraies larmes.
Je pense aussi.
Depuis la mort de mon mari, ça ne fait que quelques mois que je peux parler sans avoir les larmes aux yeux. Ces larmes sont de vraies larmes.
Elle pleure aussi devant votre caméra, toutes les quatre, tout au long des entretiens, que ce soit Ruth, que ce soit Ada, que ce soit Paula, que ce soit Anna. Elles ont aussi des larmes, vous leur en parlez d'ailleurs, hein, souvent de ces larmes qui remontent quand elles racontent leurs histoires. Et pourtant, Claude Lanzmann, devant votre caméra, ce ne sont pas des victimes, ces femmes. Elles ont quelque chose d'extrêmement fort dans ce qui se dégage de leur parcours. Est-ce que vous diriez que ce sont des résistantes, ces quatre sœurs?
S'il faut absolument des mots, je dirais oui, ce sont des résistantes, bien qu'elles aient eu des vies pas absolument comparables. Si vous prenez Ruth Elias, qui a faim et qui doit absolument venir à la lutte avec cette faim, Ruth Elias, ça n'est pas pour la Birène. Alors Ruth Elias, on peut dire, c'est une résistante parce qu'elle sait qu'elle a une idée fixe, celle près de la nourriture. Si elle est proche de la nourriture, beaucoup de possibles se révèlent à elle. Et qui n'aurait pas été pensable ou réalisable si elle n'avait pas pu satisfaire d'une façon ou de l'autre ce désir de se nourrir à tout prix. Et en plus, elle est profondément résistante encore en ceci, c'est que ni elle, ni les autres d'ailleurs, ne savent ce que c'est que l'idéalisme. Elle n'est pas idéaliste du tout, Ruth Elias. On ne peut pas leur raconter des histoires et elle n'accepte pas d'en entendre. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises.
C'est Ruth qui dit ça devant votre caméra. Ouais. Quand on est dans la misère, on agit comme un animal, on suit l'instinct. Quand j'entends des gens dire que dans les camps, ils se sont comportés comme ceci ou comme cela, qu'ils voulaient vivre afin de pouvoir raconter ensuite ce qui avait eu lieu.
C'est des conneries, oui.
Ouais. Elle dit, j'en suis désolée, mais j'y crois pas. J'ai vu l'instinct animal, tous les masques tombaient à ce moment-là.
Ouais. C'est très bon, mais c'est vrai.
Et Ruth, elle emploie ce terme de résistance, hein, Widerstand, dit-elle aussi. Quand Paula aussi vous raconte avoir vu son ami tué d'une balle dans la nuque au ghetto après avoir refusé de laisser son enfant répondre à l'ordre d'avancer des Allemands, vous lui dites « ça a dû être horrible » et vous vous souvenez de ce qu'elle vous répond? Elle vous dit « j'ai été incapable de bouger pendant 2-3 jours
oui.
Et puis il faut aller de l'avant
oui. ».
Il n'y avait pas le choix.
Oui.
C'est l'instinct de survie qui unit ces quatre femmes pour vous?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais même pas si j'ai pensé véritablement à cela. Elles en ont des points communs, même. Elles sont belles pour commencer. Ça compte. En tout cas, ça comptait beaucoup pour moi. Et moi, j'ai été immédiatement, pas bouleversé, mais capturé. Sans répit, sans possibilité d'échapper par Ruth Elias, et l'accordéon de Ruth Elias. J'étais leur prisonnier, complètement. C'est du tchèque, et c'est une voix qui me brille complètement la peau.
הנה מרתום עניים, שבט אחים גם יחד. הנה מרתום עניים, שבט אחים גם יחד. הנה מרתום, שבט אחים גם יחד. הנה מרתום. שבט אחים גם יחד הנה מטוף ומנעים שבט אחים גם יחד הנה מטוף ומנעים שבט אחים גם יחד
I came to Czechoslovakia.
Je suis rentrée en Tchécoslovaquie. J'ai commencé à chercher et à aller partout où on avait décidé d'aller après la guerre. Pas âme qui vive. Pas âme qui vive. J'ai commencé à être désespérée. J'ai commencé à chercher. Et il n'y avait pas une seule âme. J'ai commencé à être seule. Seule, vraiment seule. J'étais tellement seule que j'ai fait une dépression. J'ai donc dû être amenée dans un sanatorium. Je ne voulais pas vivre. Ça m'avait brisée.
Tout le monde était mort ?
Tout le monde. Toute la famille, les 13 frères et sœurs de mon père, tous leurs enfants, toutes leurs épouses. Il n'y a qu'une seule tante qui vivait en Palestine qui a survécu. Toute la famille est partie et moi, j'étais seule.
Dans le serment d'Hippocrate diffusé le 23 sur Arte, la Tchèque Ruth Elias que vous venez d'entendre, déportée à Theresienstadt puis Auschwitz où elle va accoucher, subira les expérimentations du médecin en chef nazi du camp d'extermination, surnommé l'ange de la mort, dont l'écrivain Olivier Guez a relaté la fuite en Amérique et la traque cette année dans un roman intitulé « La disparition de Joseph Mengele ». Tandis que la Polonaise Paula Biron témoigne dans Balouti, diffusé le 30 sur Arte, de la vie dans le ghetto de Loche, troisième pièce d'une tétralogie signée Claude Lanzmann, le cinéaste qui nous a reçus chez lui la semaine dernière pour l'évoquer. France Culture, il est midi et quart.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Au début de l'entretien avec Paula Biren, dont on sent qu'elle vous émeut aussi beaucoup, Claude Lanzmann. Paula, c'est une survivante du ghetto de Lodz. Elle a fait partie de la force de police féminine du ghetto où elle était. Et elle vous en raconte le quotidien. Au tout début de l'entretien, à cette femme particulièrement fière et digne hein, dans son regard, vous lui dites...
Be quiet, nothing happens, we didn't start it. I just want to make you nervous.
On n'a pas encore commencé, la caméra tourne. Je veux vous rendre un peu nerveuse pour que vous perdiez le contrôle,
oui,
votre contrôle.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je savais déjà des choses sur elle. Et je savais que elle n'aimerait pas tellement en parler. Je savais qu'elle avait été de la police féminine juive, ce qui est assez rare quand même. Et que c'était pas seulement elle qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était professeure à l'université de Haïfa, une des plus belles universités d'Israël, et qu'elle avait des collègues. Et ses collègues, elle les connaissait très bien. Et il y avait parmi eux de très grands mathématiciens. Plus que des prix Nobel. Mais alors, elle avait un problème très réel. C'est qu'elle n'avait pas du tout envie de trahir ses amis, ceux qui avaient été avec elle, dans les organisations de maintien de l'ordre juif. Quand je lui dis je vais vous déstabiliser ou à peu près quelque chose comme cela, ben, ça fait allusion précisément à ça, car nous avions déjà parlé. Elle n'avait pas envie de s'échapper du sens de piège dans lequel je l'avais enfermée. Elle trouvait qu'elle devait répondre à cela le plus loyalement possible. Et alors moi j'insistais, car je voulais le nom de cet homme, qu'elle a refusé catégoriquement de me donner. Et finalement, j'ai réussi à deviner qui c'était. Et j'y étais, je suis tombé dans une famille juive exemplaire, faite de génies, à la fois le père, la mère, tous mathématiciens. Et je ne sais même pas si les enfants connaissaient ce qu'avait été la destinée du père. Il y avait plein de choses qui étaient passées sous silence, qui étaient tues. Et
ça, c'est peut-être la maïeutique Lanzmann, hein, faire advenir cette parole impossible, faire dire ces vérités qui n'ont pas été dites. Est-ce que vous comprenez, après toutes ces années, si on prend l'exemple de ces quatre femmes, pourquoi elles vous parlent à vous, alors que vous n'avez pas vécu tout ce qu'elles ont vécu, alors que vous savez beaucoup de choses, alors que vous êtes un homme et qu'elles sont des femmes? Pourquoi elles se confient à vous? Qu'est-ce qu'elles voient en vous?
C'est moi qui vous le demande. C'est vous qui devriez me répondre. Elle a accepté.
Donc c'est la confiance qu'elle avait en vous? Le oui, fait aussi peut-être que vous la regardiez aussi comme une femme, belle, comme vous l'avez évoqué?
Ça compte aussi.
Ça compte sûrement. Et puis aussi le fait que vous sachiez les écouter, ces voix, ce qu'elles ont à vous dire, sans les juger. Parce que ces quatre sœurs, tout en s'écrivant dans le prolongement de Shoah, on a le sentiment parfois que ça relève aussi dans votre manière d'aller recevoir, cueillir ces témoignages d'une entreprise un tout petit peu différente. Parce que là, vraiment, et on le voit bien avec Paula, le jeu se réincarne, Claude Lanzmann. Paula, elle vous le dit, elle ne veut parler qu'en son nom, et parfois elle se présente aussi comme une privilégiée. Anna, c'est pareil, elle est habitée par la honte de ne devoir sa survie qu'à l'argent. Sa vie a été marchandée, sauvée par la vénalité d'Eichmann. Il y a cette culpabilité en chacune d'elles, hein. C'est aussi une tétralogie sur la culpabilité.
C'est vrai. Oui, absolument. On peut dire cela.
Dans La Puce Joyeuse, deuxième témoignage diffusé sur Arte le 23 janvier, quatrième extrait de cette série de quatre films que nous vous proposons aujourd'hui de découvrir. Ada Lichtman chante Le bonheur perdu. Pour cette juive polonaise, le soleil s'est éteint à Sobibor où elle a été déportée, affectée au nettoyage du quartier des officiers directeurs du camp, à rafistoler des poupées volées aux enfants juifs pour que les officiers allemands les rapportent chez eux. Pas de petit profit. Et le bonheur, après, ensuite, une fois sortie des camps, a-t-elle réussi à s'en approcher?
Sie wird es hin, für mir ruhig scheinen, sie wird mir geht sein, noch auf der Welt, sie wird ein Wurf mir erscheinen, mit die Strahlen ganz verstellt. Ich hab kein Glück gehabt im Leben, ich hab keine Eltern nicht lang gehabt. Heint, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Heint, warte ich oft. Auf meinen, heint, wein ich oft auf mein Leben. Glück, du bist mein Glück.
C'est très triste.
Ja, c'est wird das Glück noch. Sie wird sehen von mir aufscheinen.
Ainsi va le bonheur. Le soleil brillera sur moi. Cette chanson, je m'en souviens. Parce qu'un jour, vers la fin, c'était très dur. Le ciel était plombé. Il faisait froid et il neigeait. On s'est mis à la chanter et soudain, le soleil est apparu. On s'est dit, peut-être que ça va bien tourner. Peut-être que le soleil brillera vraiment pour nous, encore une fois. Mais on oublie les paroles. On avait vraiment l'espoir que le soleil brille et qu'on pourrait rentrer chez nous.
Claude Lanzmann, dans la préface de Shoah, le livre, Simone de Beauvoir, votre compagne pendant de longues années, évoquait les résonances et les harmonies dans Shoah. Est-ce qu'il y a une musique qui se rapproche de ces quatre voix que vous nous donnez à entendre à travers ces quatre films pour vous? On est dans votre bibliothèque, dans votre bureau, entouré de livres.
Oui, mais il n'y a pas de musique.
Mais il n'y a pas de musique. Vous vivez sans musique?
J'ai vécu sans musique. Et je continue à vivre sans musique. Écoutez, ce sont les circonstances de ma vie. C'était la guerre. Et mon père n'avait aucune éducation, aucune culture musicale. J'ai été élevé sans musique. Et il m'arrivait de haïr la musique. Je me souviens avoir fait un scandale mémorable à Berlin en quittant en plein milieu un concert du dieu local alors qui était Furtwängler. Je me suis tiré. Donc la musique n'est pas dans ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je sois totalement insensible à la musique. Par contre, mon fils qui est là, qui est mort il y a un an, était un musicien talentueux.
Vous citez souvent ces mots de Bossuet. Les hommes montrent autant de soin à ensevelir les pensées de la mort qu'à enterrer les morts eux-mêmes.
Oui, c'est une parole sublime. De temps en temps, ça me prend. Alors, j'avais appris le serment sur la mort de Bossuet par cœur. Et je puis dire, messieurs, que les hommes ont autant de soin, non pas maître, mais ont autant de soin à ensevelir les pensées de la mort qui a enterré les morts même.
Comment vous avez apprivoisé, vous, Claude Lanzmann, ces pensées de la mort? Est-ce que vous les avez ensevelies? Est-ce que vous avez appris à les domestiquer? La mort vous fait plus peur?
Non, je ne me suis jamais guéri de ça. Jamais. Et s'il y a une chose au monde qui me scandalise irrémédiablement, c'est le fait d'avoir à mourir. Je suis profondément contre. Je n'aime pas la musique et je n'aime pas mourir. Vous pouvez dire ça de moi.
Claude Lanzmann, vous en avez encore beaucoup, des trésors, comme ces témoignages des quatre sœurs?
Si je cherche, oui. Il y a des histoires proprement dites, mais il y a des... Dans le cœur même, dans le cours d'une interview, il y a des choses formidables qui ne sont pas des histoires en soi, mais qui...
Mais que vous aimeriez encore donner à voir.
Ah oui, ça c'est clair. Et de temps en temps j'y pense, c'est des questions de force.
Donc après Shoah, il y a eu encore beaucoup de films qui sont nés dans le prolongement. On peut penser au dernier des Injustes, on peut penser aujourd'hui aux quatre sœurs, et il y a encore des histoires à raconter.
Ah oui, oui, il y en a encore.
Est-ce que vous croyez encore en Dieu?
Je n'y ai jamais cru, et je n'ai pas l'intention de commencer. Qu'on ait bâti cette folle histoire... Je trouve que c'est trop grand C'est à la fois trop grand et trop petit pour l'objet dont cela à présent parlait.
Claude Lanzmann, vous qui avez travaillé sur des temporalités particulières avec toujours cette idée de filmer le présent pour faire aussi ressurgir le passé, est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à saisir dans quel présent nous vivons ?
Il y a un présent qui ne me va pas du tout. C'est ennuyeux, je trouve. C'est ennuyeux, puis moi j'ai vécu quand même dans un siècle que je tiens pour héroïque, le 20e. Le 20e siècle, c'est un siècle de fer, un siècle dangereux. On risquait beaucoup sa vie.
Héroïque, c'est le terme que vous gardez ou l'adjectif que vous garderiez pour ce 20e siècle que vous avez traversé, raconté, donné à voir pendant toutes ces années, à travers tous ces films. Il était terrible quand même ce siècle aussi.
Il était horrible. Oui, oui. Moi je me sens un peu expulsé de mon propre temps, de ma propre vie. Pas la peine de parler de ça, mais ça n'est pas bien que des gens qui ont quand même fait des choses dans leur vie et qui ont travaillé, qui ont bossé, se sentent soudain expulsés de leur temps. Il n'y a pas de raison.
Parce que vous vous sentez expulsé pour l'instant de votre temps.
Oui.
Mais pourtant, la reconnaissance, aujourd'hui encore, par rapport à tout ce que vous avez fait, à vos films, à votre vie d'homme aussi, elle est là et elle vous est constamment témoignée. Encore la semaine prochaine, vous serez devant l'UNESCO avec les quatre sœurs pour présenter vos films.
Ça vous impressionne, vous ?
J'ai un seul regret quand même, Claude Lanzmann, c'est que j'ai pas eu un poème. Même pas trois vers.
Alors je vais vous dire un truc tout de suite. Ils avaient demandé au moment d'une chaîne de télévision d'écrire sur le mot de Georges Perec, je me souviens. J'ai fait ceci. Je ne me souviens que de ce que j'ai appris par cœur. Je me souviens avoir lu en Guadeloupe à la pointe des châteaux. Vous connaissez un poème de Saint John Perse, buriné dans le granit d'une table d'orientation. Je me souviens que le rocher de la Désirade
se dressait dans le lointain.
Roi de jet de pierre
ascétique et nu
sur la mer des Antilles.
Je me souviens que mon émotion se redoublait de ces vers d'Apollinaire dont je me souvenais. Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade, ô Marguerite exfoliée, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. L'intégralité de ce poème, en partie composé par Claude Lanzmann à partir de Saint John Perse et de Georges Perec, est à retrouver sur notre site. Les invités de la deuxième partie de la Grande Table nous ont rejoint. Cinéma, mémoire et histoire à l'épreuve de la tragédie du XXe siècle, la caméra de Claude Lanzmann. On y revient dans la deuxième partie de l'émission après le journal d'Antoine Mercier.